VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du mercredi 5 septembre 2018. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Cameroun, attaque hier contre les militaires à Bamenda, des séparatistes neutralisés dans la région du Nord-Ouest.
En République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba, exclu de la présidentielle du 23 décembre prochain, dénonce une parodie d'élection.
Au Sénégal, la police a usé hier de gaz lacrymogène pour empêcher un rassemblement de l'opposition à Dakar.
La mission de l'ONU en Libye a annoncé hier la signature d'un accord de cessez-le-feu dans les combats meurtriers près de la capitale Tripoli.
Début houleux hier à Washington devant la commission judiciaire du Sénat pour le juge Brett Kavanaugh, nommé à la Cour suprême par le président Donald Trump.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant le journal.
Au Cameroun, neutralisation de 3 des 6 occupants d'un véhicule entré hier matin à Bamenda, dans la région du Nord-Ouest, pour s'attaquer aux militaires déployés dans cette ville. C'est ce qu'a appris le correspondant de VOA Afrique, Emmanuel Juntap, auprès de sources sécuritaires à Yaoundé. Selon le colonel Didier Badjak, porte-parole militaire, l'intervention de l'armée a été rendue possible par, je cite, « la naissance d'une défense populaire qui se met en place au sein des communautés ». Pour leur part, les séparatistes anglophones se réclamant du mouvement ambazonien disent avoir abattu 2 gendarmes en faction devant une banque hier dans le quartier de Nkwen à Bamenda. L'armée a démenti cette information.
République démocratique du Congo, l'ex-chef rebelle Jean-Pierre Bemba, exclu de la présidentielle du 23 décembre prochain, dénonce une parodie d'élection. Selon lui, le président Joseph Kabila choisit les opposants devant concourir contre son candidat. Le point avec Morgane Guiriec.
Au-delà même de ma personne, le fait que l'on choisisse des opposants, c'est très inquiétant, a réagi Jean-Pierre Bemba, investi par son parti, le MLC, comme candidat à la présidentielle. La Cour constitutionnelle est aux ordres du pouvoir en place. Tout ça n'est qu'une mise en place qui veut que le candidat du pouvoir puisse ne pas avoir de candidat sérieux devant lui, a affirmé M. Bemba. Lundi, la Cour constitutionnelle a définitivement invalidé la candidature de Bemba à la présidence en raison de sa condamnation pour subornation de témoins par la CPI. La Cour a confirmé une décision de la Commission électorale nationale indépendante. Deuxième force politique de l'opposition à l'Assemblée nationale, le MLC a annoncé la mise sur pied d'un comité de crise avec d'autres opposants chargés d'élaborer un agenda des actions qui seront lancées afin d'amener le peuple congolais à reconquérir ses droits souverains confisqués par un groupe de prédateurs.
Au Rwanda, un parti d'opposition va entrer au Parlement avec 2 sièges à l'issue des législatives de lundi, selon des résultats provisoires publiés mardi soir par la commission électorale. Il s'agit du Parti démocratique vert de Frank Habineza. 53 des 80 sièges étaient en jeu, les 27 restants étant réservés aux femmes et aux jeunes et à des handicapés physiques élus par des conseils, comités et organisations spécifiques. La coalition menée par le FPR du président Paul Kagame a obtenu 74% des suffrages, soit 40 sièges. 3 autres partis soutenant la politique du gouvernement se partagent les sièges restants.
Au Sénégal, la police a usé hier de gaz lacrymogène pour empêcher un rassemblement de l'opposition à Dakar. Rassemblement visant, selon les organisateurs, à défendre la démocratie. Plusieurs manifestants ont été arrêtés à Abdourahmane Dia.
La manifestation d'une coalition de l'opposition sénégalaise devant le ministère de l'Intérieur a été interdite par le préfet. Les opposants dénoncent un arrêté illégal et ont voulu braver la mesure d'interdiction. La police avait bouclé les accès au ministère et usé de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants qui dénonçaient la partialité du ministre de l'Intérieur, Alingu Ndiaye. Ils réclamaient aussi l'accès au fichier électoral pour tous et le retrait de la loi sur les parrainages, ainsi que le sort réservé à Karim Wade et Khalifa Sall. Karim Wade, ancien ministre et fils de l'ex-président Abdoulaye Wade, a été radié des listes électorales suite à sa condamnation à 6 ans de prison pour enrichissement illicite. Quant à Khalifa Babacar Sall, il a été révoqué en tant que maire de Dakar le 31 août par le président Macky Sall au lendemain de sa condamnation en appel à 5 ans de prison pour escroquerie sur des deniers publics.
Au Burkina Faso, l'opposition appelle à une journée de manifestation le 29 septembre prochain pour protester contre la gestion du président Marc-Christian Kaboré, jugé chaotique depuis son accession au pouvoir en novembre 2015. Précision de Bagassi Koura.
Cette manifestation qui se tiendra sur l'ensemble du territoire national sera la première du genre organisée par l'opposition depuis l'élection du président Kaboré. C'est une action contre la gestion chaotique de notre pays à laquelle nous convions l'ensemble des Burkinabés, a lancé le chef de l'opposition Zéphirin Diabré en compagnie des responsables politiques lors d'une déclaration à la presse mardi. Avec le régime de Roch Marc-Christian Kaboré, les mots que les Burkinabés dénonçaient sont toujours là en pire, a déploré Diabré, pointant la menace terroriste grandissante, l'aggravation de la misère et de la précarité, le chômage, la corruption et le népotisme, l'instrumentalisation de la justice, l'accaparement du pouvoir et la politisation de l'administration. Le président Kaboré a été élu en novembre 2015 et s'est engagé à faire reculer la pauvreté.
La mission de l'ONU en Libye a annoncé hier la signature d'un accord de cessez-le-feu entre les groupes armés impliqués dans les combats près de la capitale Tripoli, des combats qui ont fait au moins 50 morts depuis le 27 août. Après une nouvelle journée de violents affrontements au sud de la capitale, les combats marquaient une pause en début de soirée, mais il n'était pas possible de vérifier dans l'immédiat si l'accord était totalement respecté par les nombreux belligérants. La semaine dernière, un accord de cessez-le-feu annoncé par des dignitaires n'avait été respecté que pendant quelques heures.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici à Washington, poursuite aujourd'hui des audiences publiques de la commission judiciaire du Sénat sur la confirmation de la nomination par le président Donald Trump du juge Brett Kavanaugh à la Cour suprême des États-Unis. Après des débuts houleux mardi, marqués par les demandes de report des audiences par les démocrates et les cris de manifestants qui s'étaient faufilés dans la salle, le juge Kavanaugh a pu finalement s'adresser à la commission. Il a souligné qu'un juge doit interpréter la loi et non pas légiférer, ajoutant que la Cour suprême ne doit jamais être perçue comme une institution partisane. M. Kavanaugh a précisé qu'à la Cour d'appel de Washington, il a pris ces 12 dernières années plus de 300 décisions et s'est toujours laissé guider par la loi et non pas par ses préférences personnelles ou politiques.
Toujours à Washington, le président Trump a qualifié de fraude et de tentative de tromper le public les anecdotes et confidences contenues dans le dernier livre de Bob Woodward de Washington Post. Il s'est demandé si ce célèbre journaliste d'investigation n'était pas un agent démocrate. Woodward avait révélé avec Carl Bernstein le scandale du Watergate qui avait conduit l'ancien président Richard Nixon à démissionner dans les années 70. Dans des extraits de ce livre, Bob Woodward parle concernant les 19 premiers mois de l'administration Trump de coups d'État administratifs et de dépression nerveuse. S'agissant des propos désobligeants prêtés à certains proches collaborateurs du président, le secrétaire général de la Maison-Blanche, John Kelly, a démenti avoir traité M. Trump d'idiot. Et le ministre de la Défense, Jim Mattis, a dit n'avoir jamais prononcé les mots méprisants qu'on lui attribue.
Le président Trump doit diriger fin septembre une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur l'Iran, bête noire des États-Unis, accusée par Washington de déstabiliser le Moyen-Orient. Cette session au niveau des chefs d'État et de gouvernement est prévue le 26 septembre, en pleine semaine d'Assemblée générale annuelle des Nations unies, a précisé mardi la représentante permanente des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley.
Des avions militaires israéliens ont tiré des missiles hier contre des positions militaires iraniennes dans l'ouest de la Syrie, a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'homme, qui a fait état de 3 militaires syriens tués. Ces derniers mois, Israël a multiplié les frappes contre l'armée syrienne, mais aussi contre des positions iraniennes en Syrie, se jurant de ne jamais permettre à l'Iran de se servir de ce pays voisin comme tête de pont contre l'État hébreu.
Ici aux États-Unis, le maire démocrate de Chicago, Rahm Emanuel, a annoncé hier, à la veille d'un procès embarrassant, qu'il renonçait à briguer un troisième mandat à la tête de cette ville ravagée par une guerre de gangs meurtrières. Précision d'Irénée Herman Umbo.
J'ai décidé de ne pas me présenter à ma réélection, a déclaré l'ancien directeur de cabinet du président Barack Obama, qui dirige la troisième ville des États-Unis depuis 2011. Un temps considéré comme une étoile montante du Parti démocrate, Rahm Emanuel a vu sa cote de popularité chuter à mesure que se multipliaient les fusillades à Chicago qui détient le triste record du nombre de meurtres aux États-Unis. Sa notoriété dans la communauté afro-américaine a fortement baissé après la mort d'un adolescent noir tué en 2014 par un policier blanc alors qu'il marchait dans la rue. Rahm Emanuel a été accusé d'avoir cherché à étouffer le scandale. Les autorités de Chicago avaient attendu plus d'un an avant de publier la vidéo montrant comment Laquan McDonald, 17 ans, a été abattu de 16 balles. Le procès du policier s'ouvre aujourd'hui. L'annonce de Rahm Emanuel a toutefois créé la surprise puisqu'il avait déjà levé des millions de dollars en vue de sa campagne pour l'élection de février 2019.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
Minute Éco, Eric Manirakiza.
L'Érythrée mène des négociations avec la Russie sur la création d'une plateforme logistique dans l'un de ses ports. Cette plateforme, qui serait accessible aux navires de guerre russes, permettrait à Moscou d'accroître son influence dans la région très stratégique de la Corne de l'Afrique et de rivaliser avec les États-Unis, la France, la Chine et le Japon, qui disposent déjà de bases militaires à Djibouti. Elle servirait aussi à promouvoir des projets d'extraction minière, le développement d'infrastructures, l'approvisionnement matériel agricole et les contacts directs entre les deux communautés d'affaires. Le Burundi envisage d'atteindre les 10,7% de croissance d'ici à 2027. Il s'agit de renforcer le développement du capital humain et de mettre en place une stratégie de protection de l'environnement, d'adaptation au changement climatique et d'amélioration de l'aménagement du territoire. La dynamisation des secteurs porteurs de croissance, le renforcement des mécanismes de mobilisation des ressources, le développement de la coopération et du partenariat sont aussi ciblés. Le Liberia a reçu de la Chine 54 millions de dollars. Ce financement servira d'abord à la construction de deux viaducs à Moronvia, ensuite la fourniture d'une aide alimentaire d'urgence, le développement des infrastructures, la réduction de la pauvreté, la santé, l'agriculture et l'éducation figurent sur la liste des projets à réaliser.
À présent, les sports avec Nicolas Pinot. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Liste des lions indomptables connus pour les éliminatoires de la CAN 2019.
Pour sa première liste avec les lions indomptables, Clarence Seedorf a convoqué l'attaquant de Wolfsburg, Paul-Georges Ntep, qui a pourtant disputé deux rencontres amicales avec l'équipe de France, c'était en 2015. Hésitant à rejoindre la sélection camerounaise, l'ex-joueur de Rennes figure bien dans cette liste définitive pour affronter les Comores en match de qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui, vous le savez, aura lieu en juin prochain. Le joueur de 26 ans vient d'ailleurs de rejoindre la sélection camerounaise actuellement en stage au Kenya.
Transfert pour un joueur sénégalais.
Le FC Lorient a annoncé le recrutement de Sidy Sarr comme joueur joker. Le milieu international sénégalais de la Berrichonne de Châteauroux débarque dans le Morbihan sous la forme d'un prêt payant assorti d'une option d'achat. Sachez aussi que Moussa Marega a prolongé son contrat avec le FC Porto jusqu'en 2021. La saison dernière, il avait joué un rôle majeur dans la belle saison de Porto puisqu'il avait inscrit 23 buts en 41 matchs, toutes compétitions confondues.
Du nouveau pour la sélection égyptienne.
Oui, Michel Salgado a été nommé sélectionneur adjoint des Pharaons. Annonce officielle de la Fédération égyptienne de football. L'ancien latéral droit du Real Madrid et international espagnol sera le bras droit du sélectionneur mexicain Javier Aguirre et pourrait ainsi apporter toute son expérience du haut niveau à Mohamed Salah et ses coéquipiers.
Et la Colombie qui perd son sélectionneur.
Oui, c'est officiel, José Pekerman n'est plus le sélectionneur de la Colombie. Aux commandes des Cafeteros depuis 2012, le technicien argentin de 69 ans était arrivé en fin de contrat à l'issue de la Coupe du Monde en Russie où la Colombie avait été sortie, souvenez-vous, en huitième de finale par l'Angleterre. Pekerman a annoncé qu'il ne paraferait pas un nouveau contrat. Son successeur est déjà connu. Ça devait être Arthur Reyes qui dirige les Espoirs. Il s'occupera du rassemblement en ce mois de septembre. Quant à Pekerman, il pourrait se tourner vers la sélection argentine.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Avec vous, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a prêté serment hier pour un second mandat de 5 ans. Il a reconduit le premier ministre Soumaïlou Boubey Maïga à la tête du gouvernement. Mais des candidats malheureux à la présidentielle ont marqué cette prestation de serment par un grand meeting à la Bourse du Travail. De Bamako, compte rendu de notre correspondant Kassim Traoré.
Situé sur les berges du fleuve Niger, à la descente du pont des martyrs dans les quartiers populaires de Badlabougou, le temple de la culture malienne a servi de cadre pour la cérémonie d'investiture du président Ibrahim Boubacar Keïta.
Un contrat de confiance fondé sur le résultat. À vous tous, et je vous sais nombreux, qui vous retrouvez dans cette vision nouvelle, je vous demande de prendre votre part au grand rassemblement pour la conquête. Pour cela, j'ai besoin de vous, de votre adhésion, de votre labeur. Je tends la main à tous ceux qui veulent que le Mali réussisse. Tous ceux qui veulent croire en ce beau dessein, sans exclusive aucune, annonçons ce Mali solidaire et fort. Annonçons le rêve malien à cette jeunesse qui a soif de réussite.
Le parti Sadi ne veut pas la main tendue du président Ibeka. Il a introduit des requêtes contre les résultats de la Cour constitutionnelle. Omar Mariko, président du parti Sadi.
Pour le Sadi, le président issu d'une telle élection est illégitime et illégal. Le parti Sadi, par conséquent, a déposé 2 recours. 2 recours qui doivent être déposés contre la Cour constitutionnelle pour forfait. Et déni de justice. Un autre recours qui doit être déposé au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples contre la violation des droits, la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de choix à une élection présidentielle.
Réunis pour tirer le bilan de la campagne électorale, le président du RPM pense que la récréation est terminée. Docteur Bokari Treta.
Dans la vie, il y a un moment pour tout. Il y a un moment pour la compétition. Il faut qu'elle soit franche, il faut qu'elle soit rigoureuse, et il faut qu'elle soit transparente. Il y a un moment pour la contestation, mais il y a aussi un moment pour le travail. Ce jour, 4 septembre, de prestation de serment en séance solennelle, la Cour suprême a appelé l'ensemble des Maliennes et des Maliens pour dire que la compétition s'est finie. Il y a eu un gagnant, le peuple du Mali, qui confie un mandat de 5 ans à l'un de ses fils, le président Ibrahim Boubacar Keïta.
Sur le boulevard de l'indépendance, Soumaïla Cissé était devant ses partisans pour mobiliser davantage et galvaniser sa troupe.
Les agissements et les pratiques d'un régime discrédité pour ramener le Mali sur le chemin de la fierté, pour défendre notre démocratie si chèrement acquise. En un mot, vous êtes les dignes héritiers des fondateurs de la nation malienne et des martyrs de mars 91.
La détermination pour sauver notre pays, le Mali qui continue à tanguer, gérer le Mali comme des clans familiaux, gérer dans la famille, comme des intérêts personnels où on gère le pays, comme des copains et copines, on gère le pays comme l'intérêt personnel.
Le président Ibeka veut se mettre désormais au-dessus de la mêlée.
Digne de nos institutions constitutionnelles qui forment le socle de notre République, digne de ce peuple, de vous, Maliennes, Maliens, digne de ce pays qui m'aura tout donné, auquel j'ai choisi avec fierté et passion de dédier ma vie, mes combats, mes rêves. Je suis le président de tous les Maliens, de toutes les Maliennes et de tous les Maliens, de toutes les régions et de la diaspora, de tous ceux qui m'ont apporté leur suffrage, de tous ceux qui ont fait d'autres choix.
Dans la foulée de cette cérémonie d'investiture, le président Ibeka a renouvelé sa confiance en Soumaïlou Boubey Maïga comme premier ministre. Il doit former une nouvelle équipe gouvernementale. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, c'est VOA Afrique, 24h sur 24.
Le 7e forum Chine-Afrique a pris fin hier à Pékin après 2 jours de travaux. Le président chinois Xi Jinping a promis 60 milliards de dollars à consacrer sur les 3 ans à 8 chantiers majeurs ciblés. Des dirigeants de 53 pays africains ont fait le déplacement en Chine. Pour une autre analyse, Eric Manirakiza a joint à Abidjan l'économiste et consultant auprès de la BAD, Prime Nyamoya.
Je ne pense pas que ce soit l'objectif de la Chine de combattre la pauvreté en Afrique, mais elle concourt quand même avec son appui aux investissements en Afrique à réduire fortement la pauvreté. Mais je pense que son objectif, c'est plutôt également de intensifier le courant des affaires, c'est-à-dire les les importations et les exportations vers l'Afrique. 60 milliards pour la Chine actuellement n'est pas quelque chose de au-dessus de ses moyens, puisque c'est un pays actuellement qui engrange beaucoup de ressources financières et elle a intérêt naturellement à pouvoir les placer. Ensuite, la Chine a une structure étatique forte qui lui permet d'envisager le long terme, ce qui n'est pas possible avec les investissements privés.
Il y a eu 8 chantiers ciblés. Vous avez passé en revue les initiatives mentionnées. Qu'est-ce qu'on a oublié selon vous?
Non, je crois que tout y est. Tout y est parce que les 60 milliards sur les 3 ans vont couvrir pratiquement tous les domaines économiques, infrastructures, financiers, etc. Mais également, et là, c'est la première fois, les domaines sociaux, tels que la santé et l'éducation, puisqu'on parle d'échanges universitaires entre la Chine et les pays africains. Mon seul souci, c'est de savoir si tous ces objectifs seront réellement atteints dans le temps imparti de 3 ans que se donnent les deux parties.
Mais ce financement va alourdir la dette, n'est-ce pas un couteau à double tranchant?
C'est évident que la dette va être alourdie, c'est-à-dire que c'est de la responsabilité également de chaque État africain de pouvoir garder un ratio raisonnable, ne pas trop s'endetter. Mais il y a également eu une annonce que pour les pays les plus pauvres, la Chine est disposée à faire une annulation d'une partie ou de la totalité de la dette. Ce qui est quand même une bonne nouvelle, ce qui signifie qu'il y a un élément de subvention de sa part. Je crois que c'est chaque pays africain, en réalité, qui devrait pouvoir se fixer des objectifs précis avec la Chine en disant, voilà, nous avons un ratio d'endettement tellement élevé, nous ne pouvons pas aller plus loin et négocier éventuellement des aides non remboursables. Je crois que c'est la meilleure formule. Si la Malaisie l'a fait, forcément, je pense que la plupart des pays africains sont dans le même cas ou même dans des cas beaucoup plus graves en termes de ratio d'endettement.
Eh bien, c'était Prime Nyamoya, l'économiste et consultant auprès de la BAD.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
Au Tchad, la Hama, la haute autorité des médias et de l'audiovisuel, a suspendu pour 3 mois le journal Al-Shahed, un journal bilingue. C'est une suspension pour diffamation. C'est le 2e média à être sanctionné par cet organe de régulation sous la 4e République. De N'Djamena, reportage de notre correspondant André Kodmadjingar.
Née sur les cendres du Haut Conseil de la Communication sous la défunte Troisième République, la Haute Autorité des Médias et de l'Audiovisuel est l'une, sinon la première institution issue de la nouvelle Constitution consacrant la Quatrième République à être dotée de plein pouvoir. Elle a vu ses attributions renforcées dans l'ordonnance 16, signée le 31 mai 2018 par le président intégral Idriss Déby Itno. Plusieurs médias privés ont déjà eu maille à partir avec cet organe de régulation. La dernière en date est celle de la suspension du journal bilingue Al-Shahed. Accusé d'avoir publié de fausses nouvelles dans sa parution du 1er août dernier qui, selon la Haute Autorité des Médias et de l'Audiovisuel, ne contient aucun fait ou élément matériel permettant de publier des propos accusateurs à l'encontre des pays qui entretiennent des relations de coopération et d'amitié avec le Tchad, l'hebdomadaire Al-Shahed est suspendu pour 3 mois. Pour les responsables du dit journal, cette décision est un règlement de compte. Jules Daniel Yunkilam en est le rédacteur en chef section française.
Au lieu de se contenter de son rôle de régulation des médias, la Hama s'érige en un tribunal qui désormais a pour principale mission de régler les comptes des journaux d'une manière générale et précisément Al-Shahed qui critique les mauvaises pratiques converties en mode de gouvernance sous ces régimes. C'est malsain qu'un organe de régulation puisse se ridiculiser en prenant de telles décisions.
Pour le secrétaire permanent de l'ODEMET, Observatoire de la déontologie et de l'éthique des médias au Tchad, Gual Nanassoum, il y a 2 poids, 2 mesures dans la prise de décision de cet organe de régulation.
On a l'impression que la Hama subit des pressions quelque part. Elle n'est pas vraiment indépendante comme son nom l'indique. Il y a des journaux qui mettent dans leur une des photos, à la limite en couleur même, des personnalités du régime qu'on accuse des grands voleurs de la République. Et ces gens-là, la Hama ne les appelle pas pour leur demander de leur donner leur source d'informations et aux petits hebdomadaires qui se bat pour informer le public qu'on lui demande ces informations.
En prenant de telles décisions contre les médias indépendants, la Haute Autorité des Médias et de l'Audiovisuel a une autre mission, estime Dr Evariste Ngarlom-Toldé, ancien président de l'Union des journalistes tchadiens.
En quelques semaines, 3 décisions inacceptables
sont prises. Il faut simplement croire qu'on tend vers le musellement de la presse. Il ne suffit pas d'attaquer, de s'acharner sur un organe de presse simplement parce que telle information a été sensible et qui a été diffusée et qui porte atteinte aux relations diplomatiques entre le Tchad et les pays amis, entre guillemets. Cela n'est pas suffisant pour autant sanctionner un organe de presse. On risque d'arriver à la fermeture des journaux et des radios et ça serait vraiment un recul pour la démocratie au Tchad.
André Kodmadingar, maintenant pour VO Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Les Nations Unies considèrent que le mariage avant 18 ans est une violation des droits fondamentaux. Même si cette pratique est plus courante dans les pays pauvres, elle reste encore une réalité ici aux États-Unis. Des chercheurs de l'Université de Californie ont trouvé que 78 000 enfants américains âgés de 15 à 17 ans sont mariés ou l'ont été récemment. Reportage d'Elisabeth Lee, rendu par Raissa Girondin.
Sarah Tasnim a été forcée de grandir plus vite que les enfants de son âge. À 15 ans, son père l'a donnée en mariage à un homme de 28 ans.
Mon père était très impliqué dans une sorte de culte différent de la religion musulmane. Pour lui, c'est le rôle d'une fille de devenir épouse et mère.
Tasnim est un surnom pour protéger l'identité de notre interlocutrice. Elle a été religieusement mariée à l'homme qui lui a fait quitter sa famille pour rejoindre le domicile conjugal.
Ainsi, nous avons quitté les États-Unis pour aller dans son pays d'origine et revenir 6 mois après, lorsque j'étais enceinte. Et à 16 ans, nous étions mariés à Reno. J'étais vraiment déprimée. Je me souviens juste de voir les gens de mon âge aller à l'école et je voulais simplement être comme eux.
L'expérience de cette adolescente n'est pas unique aux États-Unis. Une étude des données du Bureau du recensement américain montre que de 2010 à 2014, quelques 78 000 enfants américains entre 15 et 17 ans ont été mariés. Jody Eman, de l'Université de Californie à Los Angeles.
C'est un problème parce qu'ils ont tendance à ne jamais finir l'école. 31% d'entre eux finissent dans la pauvreté à l'âge adulte et pour les filles, leur santé est menacée à l'accouchement et leurs enfants aussi ont une santé fragile.
Ces données mettent à part les États-Unis. Jody Eman, de l'Université de Californie.
Les garçons aussi se marient très jeunes.
L'étude montre un nombre plus élevé d'enfants d'origine amérindienne ou chinoise qui ont été mariés. Les enfants d'immigrés ont tendance à se marier plus tôt que les enfants nés américains. Jody Eman, de l'Université de Californie.
This is not unique to any one religion. There are child marriages.
Ce n'est pas particulier à une religion. Il y a des mariages d'enfants dans tous les groupes ethniques ou pays d'origine. Les enfants dont les pays viennent de l'Amérique latine, du Moyen-Orient ou de l'Asie du Sud-Est ont un taux plus élevé de mariage précoce. C'est aussi le cas d'enfants dont les parents sont nés aux États-Unis. Ils ont un taux plus élevé que ce qui serait acceptable.
Sarah Tasnim a eu 2 enfants avec son mari avant d'obtenir le divorce.
Je me sentais vraiment dépouillée. Je sentais qu'on m'avait volé mon éducation et jusque-là, je me bats pour retrouver mon éducation.
À 37 ans aujourd'hui, ses enfants ont grandi. Elle s'est récemment remariée, mais en arriver là n'a pas été facile. Sarah Tasnim, ancienne victime d'un mariage précoce.
On ne peut rendre à une personne sa totalité après lui avoir enlevé sa liberté.
Les chercheurs de Californie espèrent que l'histoire de ces survivants pourra aider le public à mieux prendre conscience des effets des mariages précoces.
Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, John Ellison. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.